Allez, on passe aux choses sérieuses. 9h41 sur France Inter, démarrage en trombe de l'instant M.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
En les regardant débattre hier soir, les 11 candidats, avez-vous pensé non pas à leurs manœuvres, leurs ambitions et leurs idées, mais à leur fatigue, au grand vide qu'ils ressentiront après, à ce qui les fait tenir ou bien douter depuis des mois? Avez-vous songé que tous, il y a un moment où ils ont failli abandonner? La campagne présidentielle, le corps et le moral harassés. La plupart d'entre eux pourtant vont y retourner. Bonjour Jean-Baptiste Pertier.
Bonjour.
De Krivine à Hollande, en passant par Giscard, Mamère, Boutin, Besancenot, Laguillet, Taubira, ils vous ont raconté. Moi, candidat, c'est sur Canal+, un documentaire à 20h55 ce soir.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
La liberté d'enquêter et d'informer n'est pas l'affaire des journalistes défendant leur corporation. C'est de vous qu'il s'agit, de ce que les radios, les télés, les journaux, les sites d'info peuvent vous révéler. C'est le droit des citoyens à savoir ce qui se trame derrière les pouvoirs politiques, religieux, industriels, financiers. Ce matin surgit dans différents médias et en particulier sur France Inter, la tribune de Reporters sans frontières et du collectif Informer n'est pas un délit qui en appelle aux candidats, oui, les candidats dont on va vous parler aujourd'hui, qui leur demandent de lutter contre la concentration des médias français, qui demandent à ce que soit créé un délit de trafic d'influence, punissant par exemple la tentation chez un grand actionnaire de censurer l'information au sein d'une chaîne ou d'un quotidien qu'il aurait racheté. Plusieurs points sont formulés dans ce texte. Au téléphone avec nous, Édouard Perrin, qui est journaliste à Cache Investigation et qui attend par exemple un renforcement du secret des sources. Je lui ai demandé pourquoi.
La protection du secret des sources, c'est avant tout la protection des citoyens à révéler des informations aux journalistes, informations sans lesquelles les journalistes ne pourraient pas faire correctement leur travail. Donc c'est pour ça qu'on aimerait pouvoir un peu renverser la vision commune qu'on peut avoir sur le secret des sources comme étant un secret professionnel des journalistes, ce qui n'est pas du tout le cas, et plutôt remettre l'accent sur la protection de la source en tant que telle et la protection aussi des lanceurs d'alerte qui sont également des sources.
Sans compter qu'il y avait une disposition dans la loi Bloch et que cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel. Donc finalement, on en est resté à la loi Dati. Autre question qui est vraiment d'actualité, vous voulez qu'on mette clairement fin à la mise en examen automatique, dites-vous, des journalistes en cas de plainte en diffamation?
Le caractère automatique de la mise en examen, ouais. Ça fait partie de ces procédés qui sont avant tout des causes de perte de temps, d'argent pour les journalistes.
C'est un moyen de dissuasion contre les journalistes.
C'est un des moyens, il y en a beaucoup d'autres. Mm-hmm. On a vu récemment se développer le champ de ce qu'on appelle en anglais les procédures bâillon, des procédures qu'on pourrait qualifier d'abusives par ailleurs, sur des enquêtes qu'on attaque non plus simplement par le simple biais de la diffamation, mais qu'on va attaquer sur le registre commercial, c'est-à-dire l'entreprise incriminée va dire bah, vous avez procédé à du dénigrement, donc on va vous demander des dommages d'intérêt. Tout ça, c'est un ensemble de moyens de pression, c'est des dépenses en frais d'avocat, c'est du temps de perdu. C'est la stratégie chinoise des 1000 coupures, quoi, en fait. Mmh. Et comme le corps du journalisme français n'est pas exactement en super bonne santé, tout ça fait que les personnes qui font des enquêtes se voient attaquées et de multiples manières possibles, quoi.
Pourquoi élargir la liste des documents administratifs pouvant faire l'objet d'une demande de la part des journalistes ou des citoyens? Pourquoi en élargir l'accès?
On se rend compte, nous, que le système qui avait été établi en 1978 avec la commission d'accès aux documents administratifs est totalement dépassé, que même quand nous demandons des documents qui devraient être publics, il y a tous les moyens pour les administrations concernées de ne pas les rendre publics. On a encore face à nous un secret administratif extrêmement pesant. Je voudrais quand même rappeler que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il y a un article 14, je crois, qui dit que tout citoyen peut demander des comptes à tout agent public. Et donc nous, ce qu'on demande à travers cet accès élargi, c'est tout simplement une loi d'accès à l'information telle que la Grande-Bretagne, les États-Unis.
Édouard Perrin, vous avez eu affaire justement à ces blocages administratifs, vous personnellement, dans des enquêtes récentes ?
Je me souviens d'un reportage que j'avais fait pour France 2 sur complément d'enquête. J'avais demandé un document sur le chantier de construction d'une autoroute où clairement on m'avait répondu « mais ce document est public, il est présent sur le site ». Vous alliez sur le site, on avait même missionné un huissier avec une association pour bien montrer que le document n'était pas présent et je n'ai jamais eu communication de ce document qui était quand même assez important puisqu'il s'agissait de l'analyse financière qui justifiait et motivait la construction de cette autoroute. Voilà, c'est pas des petits enjeux, c'est si vous êtes citoyen, un riverain, que vous avez un chantier public, un marché public à côté de chez vous, vous souhaitez avoir ces documents, vous ne les avez pas. Idem pour les partenariats publics-privés ou les contrats de partenariat, vous n'avez pas accès aux clauses financières pendant la durée du contrat, c'est-à-dire quand c'est des contrats de 40 ans, eh bien, il faut attendre 40 ans pour savoir à quelles conditions l'argent a été prêté et pour avoir les données financières du contrat. Voilà.
Argent public, bien entendu.
Argent public, voilà.
Merci beaucoup Édouard Perrin. Donc évidemment, sur le site de franceinter.fr et sur la page de l'Instant M, on peut retrouver le texte que vous publiez ce matin avec Reporters sans frontières et le collectif Informé n'est pas un délit. À bientôt.
L'Instant M avec Sonia De Villers.
Allez, retour à la campagne. Moi, candidat, votre film Jean-Baptiste Pertier, diffusé ce soir sur Canal+. Il est coécrit avec le journaliste politique Ludovic Vigogne. On est presque au bout de ce marathon hors norme, de cette épreuve physique et morale qu'est la campagne présidentielle pour ceux qui s'y engagent. Eva Joly vous a raconté.
Je crois que personne ne se rend compte de ce que c'est physiquement une campagne. La mienne a duré presque un an. Il y a eu 140 heures de télévision, 200 heures de radio. Il y a eu 60 meetings, une dizaine de grands meetings. C'est une prestation physique.
Quand on a vu votre film, Jean-Baptiste Pertier, hier soir, on regardait pas le débat de la même manière. On regardait ces visages, on scrutait la fatigue, les doutes, les failles, et on se disait quand est-ce qu'ils ont craqué. Eva Joly, qu'on entend là, elle a fini par tomber dans un escalier. Ça s'est terminé à l'hôpital. C'est quand même très très fort ce qu'elle raconte.
Oui, je crois qu'on oublie à quel point, ou on ne veut pas voir peut-être à quel point c'est dur physiquement, cette espèce d'épreuve complètement hors norme qu'est une campagne présidentielle. Alors, certains jouent les surhommes, c'est-à-dire font comme si ils étaient en quelque sorte à toute épreuve. Et puis d'autres, dans le film que j'ai fait, acceptent de dévoiler à quel point c'est dur. En particulier certaines anciennes candidates, en particulier les femmes.
Alors voilà. Christiane Taubira, par exemple, elle dit les otites, les angines, les lumbagos à répétition. Elle dit que physiquement, elle ne s'en est jamais remise, qu'elle a été évacuée 8 fois aux urgences après la campagne. Et en même temps, elle dit on ne peut pas craquer, on n'a pas le droit de craquer. Et d'une certaine manière, elle joue la surfemme aussi.
Oui, bien sûr. Et puis, il y a peut-être aussi l'idée que nous, électeurs, on veut aussi qu'ils soient indestructibles en quelque sorte. C'est-à-dire peut-être qu'on ne supporte pas leur faiblesse. On attend toujours dans cette élection un peu folle du président de la Ve République. On attend peut-être l'homme providentiel, la femme providentielle. Donc les faiblesses et dévoiler ses faiblesses, c'est toujours quelque chose de difficile.
C'est ça. Et d'ailleurs, elle le raconte bien, Eva Joly. Après la chute et l'hospitalisation, les 3 dernières semaines de la campagne, son équipe la maquillera 1 heure par jour pour qu'elle puisse sortir dans la rue sans qu'on ne voit les ecchymoses qui couvraient son visage. Il y a aussi sur le plan moral, il y a aussi l'après, c'est-à-dire le moment où ça va retomber. 10 de nos 11 actuels candidats, les perdants, vont vivre ce que Marie-Georges Buffet vous a confié.
Moi, j'ai passé des semaines et des semaines où j'étais au ras des pâquerettes. Enfin, j'étais dans un état de dépression extrêmement violente. J'ai pas pu m'en sortir toute seule, même si ma famille... Bon. Mais oui, j'ai été voir j'ai été consultée. Bon, j'ai repris une activité ensuite. J'ai été réélue députée. Bon. Vous vous occupez des hommes et des femmes de votre circonscription, bon. Mais je ne peux pas en parler encore aujourd'hui sans que ça me... Voilà.
Voilà. Elle s'est mise à pleurer ?
Elle s'est mise à pleurer, ou en tout cas, elle était au bord des larmes. Voilà, c'est vrai qu'elle a vraiment accepté de dévoiler ce moment très, je pense, très dur, évidemment. Voilà, donc là, tout l'enjeu pour moi, en tant que réalisateur, c'était de garder une distance quand même et une pudeur aussi vis-à-vis de tout ça.
C'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire que quand on pense à ce que vous racontent les hommes, Nicolas Dupont-Aignan vous dit « bah oui, après on vous oublie ». Bah voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Saint-Josse, Jean Saint-Josse, chasse-pêche tradition, vous dit « oh là là, moi je suis pas du genre à déprimer, hein ». Ah ça non, c'est vrai qu'il y a une différence entre ce que disent les femmes et disent les hommes.
Oui, je pense pas que les candidats, les hommes candidats soient moins fragiles. Je pense qu'ils refusent plus de dévoiler leur fragilité. Et c'est vrai que dans le documentaire, il y a 6 anciennes candidates. Et je trouve que ce sont elles qui livrent parmi les témoignages les plus forts, en fait. Aussi sur la question du sexisme, par exemple. Il y a des archives vraiment très étonnantes.
Très étonnantes. Vous voulez qu'on parle d'Arlette Laguiller, qui est entrée en campagne en 1974. Elle avait 34 ans. Elle a un clip de campagne qui dit « Mais oui, une femme a le droit. » C'est la première. Une femme a le droit de le faire. Même les candidats de gauche n'y avaient pas pensé. Je vous propose d'écouter parce que, quand même, pour les gens qui ont notre âge, Jean-Baptiste Berthier, on pouvait pas imaginer que ce soit possible. La réponse du général Bigeard.
La petite Laguiller, ben faut la marier à un second maître ou à un parachutiste et on n'en parlera plus, quoi.
C'est quand même d'une violence.
Et comme le dit Dominique Voynet, ça continue. C'est-à-dire que Dominique Voynet, elle a été candidate pour la première fois en 95. Elle était à l'époque aussi relativement jeune, elle avait 36 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et elle a subi aussi un sexisme très, très violent, hein, tout simplement.
Alors, il y a des grands absents. Hein. Ils sont 18, il y a des grands absents. Pas Nicolas Sarkozy, pas Ségolène Royal, pas Édouard Balladur, par exemple. Pourquoi ?
Oui, malheureusement, et à notre grand regret. Alors, on les a fait exister quand même dans le film avec les archives,
qui émaillent les témoignages.
Voilà. Donc, ils sont là, et en même temps, ils sont pas là en personne avec leurs témoignages. En fait, chacun, disons, est absent pour des raisons différentes.
Nicolas Sarkozy était en plein dans les primaires.
Nicolas Sarkozy était en plein dans les primaires de la droite, et puis il a perdu. Donc, je pense que pour lui, c'était compliqué, voilà, de revenir sur des campagnes passées alors qu'il était justement après une défaite.
Ouais.
Ségolène Royal a été assez insaisissable. Voilà.
Mais François Hollande accepte de se remettre dans la peau du candidat alors qu'il est à l'Élysée. Vous les installez tous dans un faux bureau élyséen. Lui, il a le vrai.
Oui, alors le parti pris de départ, c'était de dire construisons un décor. Rappelons que la campagne présidentielle, c'est du décor, c'est beaucoup de théâtre, c'est beaucoup d'images, c'est beaucoup de formes et assez peu de fond. On peut le regretter, mais c'est comme ça.
Beaucoup de spectacles, ils le reconnaissent. Christine Boutin en parle très bien.
Beaucoup de mise en scène, voilà. Et puis, avec cet artifice, un petit peu comme au cinéma, on crée un artifice, on crée de la mise en scène, mais pour faire surgir une vérité, pour essayer de faire surgir une parole vraie. Et c'est vrai que François Hollande, dont vous parliez, a accepté, alors qu'il est président en exercice pour encore quelques semaines, il a accepté de se remettre dans la peau du candidat, aussi parce que je pense que la campagne de 2012 a été globalement un moment assez, assez joyeux pour lui.
Assez joyeux. Valéry Giscard d'Estaing, parce qu'il fallait bien qu'il y ait un ancien président parmi eux, vous dit quelque chose une très belle phrase. Il vous dit « on ne fait pas campagne assis, une campagne ça se fait debout, une campagne c'est une marche ». Les candidats rencontrent les Français, François Bayrou puis Noël Mamère.
La plupart des gens, on a entendu récemment des gens qui disaient « je veux aller voir vivre les vrais gens ». Mais mon pote, si t'as jamais vu vivre des vrais gens, te conseille pas de te lancer dans cette élection.
Il y a des moments où j'en avais un peu ras-le-bol d'écouter des gens sur leur sujet très précis, ce qui est pas normal, hein. Ils sont tous, chacun, là où il est, pense qu'il est le centre du monde et que sa cause est la cause qu'il faut défendre dans le monde. La politique, c'est aussi avoir de la patience, une grande patience.
Voilà, François Bayrou et Noël Mamère. Oui, c'est assez juste ce qu'il dit, Noël Mamère. Personne n'ose le dire comme ça, hein, d'une certaine manière. Il y a des moments ras-le-bol. Ras-le-bol de les entendre tous. D'ailleurs, vous avez des archives qui sont assez parlantes à ce moment-là.
Oui, en fait, ils sont quand même tous un petit peu dans la langue de bois, puisqu'ils nous disent tout ça. Ah, allez, à la rencontre des Français, c'est formidable. Cette chaleur humaine, ce qu'on nous renvoie, les mains qu'on serre, les bises qu'on claque, etc. Et puis, ma mère, voilà, il est le seul, peut-être, à avoir l'honnêteté et la franchise de dire, voilà, parfois rencontrer les gens, aller à la rencontre des gens, ça peut être extrêmement pénible, extrêmement fatigant, parce que les gens arrivent avec leurs petits problèmes que de toute façon l'homme politique ou la femme politique ne réglera jamais.
Voilà, il y a Robert Rue qui est relativement honnête hein, aussi, qui dit « Alors celui qui vous dit non, tout ça, ça n'est pas de l'ivresse, on n'est pas profondément porté sur le plan narcissique d'être reconnu partout et par tout le monde, il vous ment. » Et en même temps, il vous le dit, c'est quand même très violent, c'est très difficile.
Oui, je pense que voilà, vivre en permanence avec des caméras autour de soi, avec des appareils photos autour de soi, c'est une ivresse, c'est certain. En tout cas au début, hein, et puis je pense que c'est aussi un poids. Voilà, en même temps, on n'est pas là non plus pour les plaindre. Hein.
Non,
c'est,
non.
Voilà, c'est le jeu, ils ont accepté de faire
pas,
ça.
Et ils ne s'en plaignent pas. Et la plupart d'entre eux, ils sont retournés. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ils sont un peu, eux aussi, ils sont un peu hors norme, non ? Eux aussi, ils ont un petit pet au casque, hein, parce qu'ils en redemandent. Hein.
Oui, je pense qu'il y a une folie. Hein, il y a une folie de cette élection. Et il y a une folie peut-être de ces hommes et de ces femmes qui acceptent de participer à cette épreuve, de courir ce marathon-là. Je disais, on n'est pas là pour les plaindre. Voilà, il ne faut pas oublier aussi, hein, ça c'est une phrase que avait dit Olivier Besancenot dans l'entretien qu'on a eu avec lui. On ne l'a pas gardé au montage, mais il dit, bon, voilà, il faut attention à ne pas non plus donner l'impression qu'il faut des super-pouvoirs pour être candidat à l'élection présidentielle. Voilà.
Alors, en même temps, ils sont tous encore dans le storytelling de leur campagne. Hein. Et ça, c'est peut-être un peu le regret qu'on peut avoir dans ce film, c'est-à-dire vous consacrez un chapitre aux attaques et aux coups bas. Alors, il y a des choses humaines, il y a des choses émouvantes. Et en même temps, Dominique Voynet, c'est la seule qui vous dit, j'ai été lâchée par tous les quatre de mon parti qui m'ont savonné la planche. Les autres, le règlement de compte à OK Corral, de A à Z de la campagne, pas un mot.
Dominique Voynet, je pense à cette franchise précisément parce qu'elle est retirée de la vie politique.
Oui.
Et effectivement, elle avoue avec une très grande honnêteté qu'en fait, les coups les plus violents viennent de l'intérieur dans une campagne présidentielle. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne soupçonne pas. C'est à l'intérieur de votre propre parti qu'on vous attaque le plus quelque part et que les attaques sont les plus violentes.
Donc vous n'avez rien recueilli quand même sur ces manœuvres, ces contre-attaques?
Alors je pense que les autres effectivement, comment dire, adoucissent un petit peu les choses. C'est aussi que dans ce documentaire, le choix qu'on a fait dès le début, c'est de dire, voilà, seuls les anciens candidats parlent. Hein, y a pas de contrepoint. Il n'y a pas de contrepoint, il n'y a pas d'analyste, il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas de conseiller. Voilà, donc ils peuvent se contredire entre eux.
Oui.
Le montage peut les contredire.
Mais ils se racontent.
Mais voilà, et ça c'est peut-être une des limites. Hein. Il y en a toujours de l'exercice, c'est qu'effectivement ils nous racontent les choses comme ils ont envie de nous les raconter.
C'est ça, et puis on sent bien que c'est leur roman national à eux, puisqu'à un moment ils ont voulu incarner la nation.
En même temps, je pense que la caméra quand même est souvent cruelle, voilà, et elle dévoile des choses, je pense aussi à leur insu. Alors peut-être que eux essayent de se mettre en valeur, mais je crois que souvent quand même,
je suis assez d'accord.
Ils dévoilent des faiblesses, soit volontairement, soit
Nicolas
peut-être aussi inconsciemment.
Nicolas Dupont-Aignan ne peut pas s'empêcher de sourire quand il se regarde en train de faire campagne. Merci beaucoup Jean-Baptiste Pertier, moi candidat ce soir.
Merci.
Canal Plus, 20h55. Ali Rebeilly, salut, comment ça va?
Salut Charlotte Villers. Est-ce que vous avez des personnages de séries télé qui sont presque des amis, presque aussi importants que des amis?
Comme...
Là comme ça.
Punky Brewster quand j'étais petite.
Très bien, bravo.
J'étais copine avec Punky Brewster.
C'est super.
Et je pense que j'ai vécu longtemps Ali avec les frères et sœurs de Six Feet Under.
Ah ben moi aussi. Ned Fisher.
Ouais, vraiment. J'avais l'impression qu'il faisait partie de ma famille.
Exactement. Je suis totalement d'accord avec vous.
C'est le sujet de votre émission.
Exactement. Pourquoi les personnages. Non, je vous parle pas comme ça des séries, vous savez. Pourquoi les personnages de séries télé deviennent presque des amis? Eh ben dites-nous tout au 01 45 24 7000.